Cléa Salamé, votre invité ce matin est agriculteur et essayiste.
Oui, on ne le présente plus. Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Vous publiez un livre de dialogue France, sans faux semblant et parfois sans concession, avec le journaliste et éditeur de l'Aube, Denis Laffey, où vous n'hésitez pas à dire vos vérités sur l'homme et sa délirante capacité à, je vous cite, exploiter sans retenue, sans morale, sans conscience, aux seules fins du mercantilisme et de la cupidité sans limite, la beauté et la générosité de la nature. Le livre s'appelle « J'aimerais tant me tromper ». Vous aimeriez tant vous tromper sur quoi, Pierre Rabhi ?
Sur ce qui me tourmente depuis plus de 50 ans, puisque j'ai fait un retour à la Terre il y a 50 ans, par protestation en quelque sorte, à la fois par commodité pour ma propre existence et celle de ma famille, vivre dans la nature et non pas dans du hors-sol urbain. Et puis, c'est construite une sorte de philosophie, un point de vue qui est ce qu'il est, par rapport à l'humanité et par rapport à ce qu'elle représente. Mmh. Et je suis en train de rédiger un texte que j'appelle « La tristesse de Gaïa ». C'est-à-dire que je prends la planète Terre, je lui donne une espèce de personnalité et je la fais parler en quelque sorte.
Et elle est triste.
Elle est triste, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est une anecdote de Gorbatchev qui dit qu'il y a une planète de l'espace qui un jour rencontre la planète Terre. Elle la regarde, oh ma pauvre, comme tu es dépenaillée, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu sens mauvais, etc. Ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. Ah, ce n'est que ça, je l'ai attrapé, je m'en suis guéri et tout va bien. Donc j'aimerais pas qu'on aboutisse à cela.
Pierre Rabhi, on n'a jamais tant parlé dans les médias, dans les discours des politiques, dans les conseils d'administration des entreprises, de l'urgence écologique, de la préservation de la planète, de la biodiversité, et pourtant vous restez pessimiste. Vous dites que c'est pas assez, ou que c'est superficiel, que c'est de la façade. Vous dites que la prise de conscience, et vous n'aimez pas cette expression « prise de conscience », ne suffit absolument pas, qu'il faut, vous écrivez, une élévation de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire, la prise de conscience me rappelle l'électricité. C'est comme si il y avait une prise de conscience dans la case branchée, et pof, tout, on comprend tout. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ça procède d'une réflexion approfondie sur le sort de l'humanité, sur le sort de l'humain lui-même. Est-ce que nous avons quel rôle avons-nous dans l'immensité de ce monde qui nous est tellement gigantesque qu'on en a le mystère? Il n'y a qu'à regarder les étoiles par une nuit d'été. On est dans un monde extraordinairement vaste et beau. Et puis il y a cette planète Terre qui est quand même un privilège. Pour moi, l'humanité, c'est à peu près une minute à deux minutes l'avènement de l'humanité sur les 24 heures qu'on pourrait attribuer à la planète Terre.
En gros, ce que vous dites, c'est vous appelez à une révolution intérieure de chacun qui serait totale. Vous dites que ça sert à rien de manger bio, trier ses déchets, de recycler son eau, de se chauffer à l'énergie solaire. Si quand on rentre chez nous, on exploite notre entourage, on brime son prochain. Si les dirigeants, ça sert à rien qu'ils parlent d'écologie, s'ils n'accueillent pas les migrants. En gros, ça sert à rien de se donner une bonne vertu écolo si on ne fait pas le bien par ailleurs, c'est ça ?
On peut manger bio, recycler son eau, exploiter son prochain. Je veux dire, c'est pas incompatible. C'est comme si manger bio et tout ça et
nous donner une vertu.
Ça y est, on est sauvé. Ouais. Non, on ne sera jamais sauvé si l'être humain lui-même, qui est l'auteur de tout ce qu'il fait, il a une responsabilité énorme, et si celui qui a organisé le monde tel qu'il est. Pas très bien, parce que quand même, on donne énormément de moyens pour les armes, pour tuer, regardons les choses dans leur réalité. L'être humain, les armes constituent des investissements absolument colossaux et qui amènent finalement à dire nous sommes plus au service de la mort que de la vie. Et la destruction qui est faite des forêts, partout, c'est-à-dire que
l'être humain... Il y a la reforestation aussi, Pierre Rabhi, partout.
Oh oui, mais enfin, c'est, Vous savez, j'ai travaillé dans des réalités très concrètes, c'est-à-dire que j'ai travaillé au Sahel auprès de paysans à la dérive pour leur apprendre à cultiver en agroécologie, avec etc. Bon, j'ai écrit tout un livre sur cette aventure qui est de dire aux paysans, qui est d'amener aux paysans, écoute, renourris-toi d'abord. J'ai écrit un livre que j'ai appelé L'offrande de crépuscule parce que je l'ai dédié au courage des femmes, parce que quand vous êtes dans, nous on est dans des réalités confortables, mais quand vous êtes dans le contexte de gens qui sont en survie, ils sont pas en vie, ils sont en survie, et j'ai vécu dans ce contexte-là, à ce moment-là se révèle la vérité des choses. Autrement, bon, il y a toute une esthétique du langage, une esthétique de l'écologie, etc., mais c'est pas ça qui va vraiment résoudre les grands problèmes.
Quel regard vous portez sur cette mobilisation des jeunes? Je sais que vous dites qu'il ne faut pas que l'Occident se referme sur lui-même et qu'il oublie ce qu'il se passe en Afrique et ailleurs, mais tout de même, ce qui se passe en Occident, la mobilisation des jeunes, le fait qu'ils descendent dans la rue tous les vendredis, qu'ils portent totalement le discours écologiste avec passion, avec ferveur, comme Greta Thunberg, ça ne vous rend pas un peu optimiste?
Non, mais je parle pas d'optimiste ou de pessimisme.
Parce que le livre est sombre.
Bernanos disait l'optimiste c'est un imbécile heureux et le pessimiste un imbécile triste. C'est pas ça. C'est pas en termes d'optimisme ou de pessimisme. Il faut être dans le réalisme. Et je trouve que il y a énormément de théories sur les choses, mais il n'y a pas la présence réelle sur les réalités concrètes. Bien sûr, les mots se laissent dire, hein, les livres se laissent écrire, mais le problème c'est que quand vous avez vu des enfants mourir de faim tout doucement, agoniser, que vous avez vu le désert s'installer, que vous avez vu que vous êtes conscient que les variétés de semences qui sont nécessaires à la survie ont disparu à raison des trois quarts, quand vous avez c'est ça le réalisme, parce que autrement on est dans une bulle à partir de laquelle on spécule, mais cette bulle elle est comme au milieu d'un océan. Le problème, il faut être concret maintenant.
Mais cette jeune fille, Greta Thunberg, vous en pensez quoi, Pierre Rabhi ?
Elle a raison, si vous voulez. Elle a raison parce que il y a toute une jeunesse aujourd'hui qui est quand même dans une transition. Est-ce que c'est une transition ou pas? Aujourd'hui, réellement, le boulot, il n'y en a pas beaucoup. Les jeunes savent que ce qui s'est passé n'est pas quand même très rigolo. Leur propre avenir, ils ne savent pas trop comment le construire, etc. On peut concevoir qu'ils soient très très inquiets par rapport à une logique qui est sortie des fameuses 30 glorieuses très rassurantes où on perdait un emploi, le lendemain on en retrouvait un. On oubliait que c'était le tiers-monde qui dopait ce système surabondant. Voilà, et dans la surabondance, on consomme des anxiolytiques.
Vous êtes très critique avec le discours écolo-compatible dans la grande distribution. Vous dites que c'est le summum de la perversion et de la manipulation. Pourquoi ?
Parce que, encore une fois, l'écologie ne peut pas être tout le temps en train de s'adapter à ceci ou à cela. L'écologie, c'est d'abord une conscience. Et il y a pas longtemps, une journaliste est venue me voir parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui dis, madame, vous êtes de l'eau. Et nous sommes cela. Il n'y a pas l'eau et moi. C'est juste, moi, évidemment, si on presse, il n'y aura peut-être pas grand-chose. Mais nous sommes cela. Et ce que je voudrais, c'est qu'on connecte profondément avec la réalité de la vie à laquelle nous devons la vie. Et si on ne fait pas cette connexion, nous disparaîtrons comme n'importe quelle autre espèce qui a disparu sur cette planète. Alors voilà, c'est simplement...
Comment on se connecte ? Comment on l'a fait, cette connexion ?
Comment voulez-vous vous connecter quand vous êtes dans quelques mètres carrés de terre, vous êtes dans votre boîte, j'appelle ça l'itinéraire des boîtes, vous savez, de la maternelle à l'université, on est enfermé. Ensuite, on travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte, on y va dans sa caisse. Il y a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà l'itinéraire d'un être moderne dans la modernité.
C'est d'être dans une boîte.
Il y a une incarcération.
Et vous avez réussi à sortir un petit peu de la boîte, pas totalement, vous n'êtes pas exempt d'ailleurs de critiques, vous les dites dans le livre, vous dites je ne suis pas du tout un être pur, moi aussi je prends la voiture, moi aussi je prends l'avion.
Oui, je ne voudrais pas être perçu comme celui qui est l'idéal ou quoi que ce soit, j'ai mes propres problèmes.
Et vos propres contradictions.
Mes propres contradictions, je ne suis pas venu voir un char à bœuf, j'ai bien utilisé une voiture, etc. etc.
Merci Pierre Rabhi. La première question du livre, c'est « Êtes-vous heureux ?»
Vous savez, le bonheur est très relatif. Hein. Le bonheur est très relatif. L'idéal, c'est la joie. Mais la joie est encore beaucoup plus rare, magnifique, parce qu'on est, on sent dans une très grande légèreté et on se sent vraiment vivant. Le bonheur, c'est chacun qui le définit. Hein. Il y a des gens qui sont heureux de tuer. Hein, je veux dire, voilà, c'est tout relatif.
J'aimerais tant me tromper. Dialogue avec Denis Laffey. Très belle et très poétique illustration de Pascal Lemaître. C'est aux éditions de l'Aube. Merci et belle journée à vous.